et bienvenue à tous dans La Chose Commune. Vous savez, on aime aller au bout des choses dans cette émission, surtout sur des sujets importants dont on estime qu'on ne parle pas assez. C'est pour cela qu'on vous propose une troisième émission autour de la question de l'assainissement écologique. Après les deux dernières émissions autour de cette question, on rentre dans la maison où l'on possède au moins tous un toilette, avec la consommation d'eau potable qui en découle. On imagine, on fait le calcul, 5 litres par chasse, fois le nombre de pipi et de caca dans une journée, fois le nombre de personnes dans la maison. Je vous laisse faire le calcul de l'eau souillée par nos déjections à l'échelle d'une ville et d'une année. Comment ça se passe quand on fait le choix de ne pas avoir des toilettes au tout à l'égout à la maison? En particulier, comment on fait pour gérer des toilettes sèches chez soi? On en discute aujourd'hui avec Delphine, chez elle, qui nous fait part de son témoignage. Bonne écoute! Bonjour Delphine.
Bonjour Charles.
Alors, tu as des toilettes sèches chez toi, dans ta maison. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi?
Alors, j'ai des toilettes sèches et je n'ai que des toilettes sèches parce que quand je suis arrivée dans cette maison, elles n'étaient pas reliées au tout à l'égout ni à l'eau courante. Et donc, du coup, il y avait la mamie qui habitait dans cette maison avait fait installer un toilette broyeur qui était pénible, qui tombait en panne tout le temps, qui sentait pas bon et qui faisait beaucoup de bruit. Et que c'était pas trop notre idée. Donc, du coup, on avait croisé l'association du Forum Solaire, qui était une vieille association du Blaisois, du côté de Chitney. Ils faisaient des fours solaires et des toilettes sèches, et ça nous avait tout de suite branché. Donc on s'est dit qu'on allait installer un toilette sèche. Voilà, et du coup on a démonté de façon définitive le vieux toilette qui faisait du bruit. Et on s'est installé en toilette sèche, et on n'a jamais refait le chemin arrière. Voilà.
Et donc, ça fait combien de temps, cette installation?
Ça fait 12 ans. 12 ans de compostage.
Et cette installation de toilettes sèches, est-ce que tu l'as vue comme une contrainte ou au contraire comme une opportunité?
Alors moi, j'étais une citadine, une citadine qui arrivait avec plein de papillons dans les yeux. Je me disais, ouais, c'est chouette, la campagne et tout, la nature, je vais devenir une grande écolo. Et donc, du coup, non, au contraire, je trouvais que c'était vraiment passionnant comme expérience de se lancer là-dedans, d'essayer de ne pas y arriver, de recommencer, enfin voilà. En tout cas, en termes de compostage. Non, je trouve ça plutôt drôle. Puis on a eu quand même des retours assez positifs, quoi. Au début, nos parents, qui étaient des nouveaux urbains, puisqu'ils avaient grandi à la campagne et qu'ils avaient sans doute un toilette au fond du jardin, ont commencé à nous regarder un peu bizarrement. Mais même eux, ça ne les gêne pas. Enfin, je veux dire, tout le monde vient. Ça n'a jamais empêché personne de venir à la maison, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que les gens se font pipi dessus parce qu'ils refusent d'aller faire pipi dans la sûre. C'est plutôt vécu positivement. Les gens posent des questions un peu, puis après, en fait, finalement, de moins en moins. Non, c'est pas une contrainte. C'est une contrainte quelquefois. Il peut arriver que ça soit une contrainte quand il pleut et qu'il faut vider le seau. Quand on est malade et qu'il faut vider le seau. Voilà. Quand on est nombreux. Et qu'on a oublié de dire dès le début que, en fait, comme on fait tous pipi, on peut tous aller vider le seau avec une petite régularité comme ça. Mais une fois qu'on a ces petits préalables-là, ça se passe bien, même quand on est nombreux.
Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement comment ça marche, comment on fait pour avoir et entretenir des toilettes sèches?
Alors, moi, c'est un tout petit meuble de rien du tout, en fait. On dirait une grosse poubelle en bois. Plutôt jolie, ronde, avec à l'intérieur un seau en inox, ce qui était le matériel le plus facile à nettoyer, parce que j'ai essayé au début avec d'autres types de seaux qui ont fini par percer avec l'acidité de l'urine, donc ça c'était les quelques mauvaises surprises qu'on a eues, hein. Des matins on se réveillait avec une inondation d'urine dans la salle de bain, parce que le seau en galva avait percé, des choses comme ça, ou alors les seaux en plastoc qui sentaient pas très bon, même si on les rinçait. qui finissait par puer. Donc du coup, là, c'est juste un petit meuble avec un seau en inox qui est pas... je sais pas combien de litres il fait. Il est pas très grand. Et du coup, c'est installé dans la salle de bain. On pourrait même changer l'endroit des toilettes si on veut, puisqu'il n'y a pas de branchement. C'est vraiment le système le plus basique. Après, j'ai vu qu'il y avait des tas d'autres systèmes hyper, enfin un peu plus complexes et qui du coup peut-être facilitent la vie parce qu'il y a des vidanges moins régulières. Enfin voilà, des choses comme ça. Mais nous, on est vraiment resté sur du basique. Donc on a notre petit seau, on va recharger notre sure chez un copain menuisier ou quand il a pas beaucoup bossé et qu'il a pas beaucoup de copeaux, on va à la scierie du coin en faisant attention à ce que ce soit pas des bois traités pour éviter que ça gêne l'équilibre de notre compost et puis que ça pollue. Et donc voilà, ça aussi, voilà, c'est une petite gymnastique, quoi. C'est-à-dire que c'est comme les rouleaux de PQ, quoi. Faut s'assurer qu'on a de la sure. Enfin, c'est-à-dire ça arrive que le dimanche à 21h, on se dise « Ah mince, il n'y a plus de sure !» Bon voilà, ça c'est un peu casse-pied, mais... Je veux dire, même en dernier recours, on peut toujours aller acheter un paquet de copeaux à la coopérative agricole, des copeaux pour les hamsters, là. Voilà. Ce qui peut arriver de pire, c'est qu'on n'ait pas de copeaux, quoi. Et donc après, bah voilà, on met un, je sais pas, 2 cm de sure ou de copeaux au fond du seau. Et puis ensuite, on attend qu'il soit plein. À chaque fois qu'on va aux toilettes, on met une petite louche pour recouvrir. On n'est pas gêné par les odeurs, même l'été, on n'a jamais eu de soucis de mouches ou de choses comme ça. Il y a un équilibre qui se fait naturellement, quoi. Et puis ensuite, on fait la vidange au fond du jardin. Un peu loin, mais c'est plutôt au niveau visuel, parce que vraiment, même au niveau des odeurs, on n'est pas gêné. Et puis du coup, on composte sur 1 mètre cube à peu près. Ça fait 1 an pour 4. Et puis après, on n'attend pas forcément 1 an. Des fois, on attend 6 mois seulement. Puis ensuite, on bascule sur l'autre aire de 1 mètre cube. Et puis ensuite, après, nous, on ne s'en sert pas au potager. Mais on l'étale dans le jardin. On a un grand jardin. Donc voilà, on le met au pied des arbres, au pied des plantes. Et elles ont l'air de plutôt bien s'en porter. Et puis surtout, en fait, ça réduit tellement. Enfin, je veux dire, à la fin, il ne nous reste quand même pas grand-chose à étaler, quoi. Donc la nature fait bien les choses et tout disparaît, quoi. Après, nous, on utilise du papier toilette classique. Je sais qu'il y a des gens qui n'utilisent pas du tout de papier toilette ou du papier toilette lavable ou des choses comme ça. Nous, on utilise du papier toilette classique, pas coloré, mais voilà, classique. Et puis, il disparaît très, très vite aussi dans le compostage. Et puis ça équilibre aussi, je pense, au niveau carbone, azote, là, tout ça. Voilà. Et puis on ajoute, voilà, quand c'est l'été, on ajoute aussi nos tontes de pelouse. Ça permet aussi de recouvrir. Du coup, esthétiquement, voilà, c'est aussi bien. Et puis ça donne... Enfin, voilà, on voit bien, quoi, quand le compost est un peu trop humide ou ça démarre pas bien. Et donc, du coup, bah, on rajoute un peu des trucs. Comme on a un grand jardin, on a toujours de la tonte ou des feuilles, des choses comme ça à rajouter. Voilà, pour équilibrer. Voilà, c'est ça notre petite cuisine de toilette.
J'ai l'impression qu'il y a un petit peu des réticences au niveau de l'hygiène. On a l'impression que ce n'est pas forcément propre. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur l'entretien et sur l'hygiène de ces toilettes ?
Alors, bah, l'entretien, chez nous, je veux dire, la cuvette des toilettes, c'est le même entretien. Enfin, la lunette, quoi, c'est le même entretien que chez tout le monde, quoi. C'est propre, enfin, je veux dire, il n'y a pas de contact. Et après, le seau, ben, nous, on le rince à l'eau de pluie après chaque vidange. Et puis, on le lave une fois de temps en temps avec un peu de vinaigre, un peu de bicarbonate. Et puis si jamais l'un de nous est malade, ce qui peut arriver, je ne sais pas, une gastro, un truc comme ça, on fait un peu plus attention parce qu'effectivement, on va mettre un peu de désinfectant, quoi, dans le fond de la cuve. Et puis voilà, on n'a jamais eu de soucis de transmission de maladie où on a l'impression que c'est spécifiquement notre toilette qui... Voilà, après, on vit dans une société où on ne veut pas voir les choses. Alors donc effectivement, sans doute que c'est plus facile de tirer la chasse avant même que de se retourner et de ne pas voir... Les pipis, les cacas, quoi. Enfin, je vois bien comment ce que tu veux dire. Mais Bah, je te dis pas que c'est le meilleur moment de ma journée. Voilà, mais en même temps, je me promène, je suis dans mon jardin. L'odeur est pas envahissante, puisque du coup, il y a la sûre qui bloque les processus bactériologiques et la prolifération des odeurs. Donc voilà, c'est juste la réalité, quoi. On produit des déchets et il faut qu'on les évacue. Et du coup, moi, je suis assez contente que ce soit pas la collectivité qui s'occupe de ça. Voilà, des fois, ça me gonfle de devoir le faire. Des fois, je trouve que c'est plus facile de tirer la chasse, c'est vrai. Mais en même temps, voilà, c'est mes déchets, je m'en occupe. Ça prend très peu de temps, finalement, puisque nous, on vide, je sais pas, tous les 3 jours, quoi, quelque chose comme ça. Et tous les 3 jours, ça prend 10 minutes, enfin c'est bref, et le reste du temps, et ben du coup en fait on voit que la sueur, on n'a pas d'odeur, enfin donc non, il y a pas d'histoire d'hygiène, je trouve pas ça plus sale ou on met pas les mains dedans quoi, enfin voilà. Et les tout petits comprennent très vite, puisque nous on a une petite fille qui a 3 ans, qui est propre là maintenant, mais je veux dire, elle a toujours vécu que ça hein, d'ailleurs, donc du coup elle s'est pas posée autrement la question, mais elle a tout de suite compris comment ça fonctionnait, jamais, elle en met pas partout, elle met pas les doigts dans le toilette, enfin voilà, je sais pas, je vois vraiment pas ce qui pourrait être sale, plus sale que de faire pipi dans de l'eau potable quoi. Parce que ça, c'est pas très propre, hein. C'est pas très bien.
Justement, tu parles des enfants. Est-ce que malgré tout, il y a une petite éducation à faire par rapport à l'utilisation des toilettes ?
Et là, du coup, il y a des gamins qui sont venus là, il y a pas longtemps. Et du coup, comme je savais que tu venais, ils m'ont posé la question. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu fais pipi dans la sueur ? Et je lui ai dit, mais pourquoi tu fais pipi dans de l'eau potable ? Et il était vraiment... Enfin, je sens que ça l'a vraiment fait réfléchir, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est bizarre pour le commun de faire pipi dans la sueur, mais quand on lui pose la question de savoir pourquoi lui, il balance 5 litres, je crois, à peu près, une chasse d'eau, ça doit être 3, je sais pas, 5, enfin bon. Ça fait quand même beaucoup de litres de flotte qui s'en vont, et c'est une activité très polluante là. Du coup, on sait même que on n'arrive pas très bien à recycler l'eau qui est partie dans les eaux vannes. Et donc, du coup, je lui ai juste renvoyé cette question, et je pense que ça, c'est vrai. Enfin, voilà, il disait ah oui, c'est vrai quoi. Enfin, les enfants, ils y pensent pas. On ne dit pas qu'on jette de l'eau potable quoi quand on tire la chasse. Et puis, mais après, oui, il y a une petite éducation. Après, moi, je me rappelle de ma grande fille qui a quand même eu un petit moment de fascination pour les chasses d'eau à eau, et qui allait tirer les chasses d'eau chez les copains quand on allait chez des gens qui avaient des chasses d'eau à eau, quoi. Ça, c'est vraiment ça. Elle a quand même un peu fasciné autour de 2-3 ans. Elle a tiré quelques chasses d'eau pour se faire plaisir. Voilà.
Ben, j'ai l'impression que c'était plutôt bien répondu. Juste une dernière question. Tu parles sûr, tu parles copeaux. Est-ce que tu utilises... C'était plutôt sûr ou copeaux? Et est-ce qu'il y a une différence?
Alors, du coup, on est plutôt ce qu'on trouve. Maintenant, on trouve quand même globalement... Enfin, je veux dire, après, très vite, on se fait un petit réseau. Et donc, les gens, les menuisiers, ils n'en font pas grand-chose de leur copeaux, si ce n'est de le filer. Donc, ils sont plutôt contents qu'on vienne faire le ménage et récupérer... Donc voilà, le copeau, enfin le copeau de menuisier là, c'est sympa parce que des fois il y a différentes essences, ça sent bon, tout ça. La sure, c'est plus compact, peut-être que du coup ça étouffe plus le compost en fait, ça fait un truc beaucoup plus compact et donc en fait l'idéal c'est les deux. Voilà. Après, nous, on a essayé, enfin vraiment au début, on a essayé des trucs un peu genre les feuilles sèches, broyées, mélangées avec 3 brins de lavande et 2 feuilles de laurier pour que ça sente bon. Franchement, c'était vraiment des expériences d'hurluberlu. Ça marche pas beaucoup mieux, on se cassait les pieds, ça faisait beaucoup de poussière, il y avait enfin voilà. Donc honnêtement, le copeau, c'est idéal, mélangé à un peu de sûre. Et puis on fait en fait en réalité avec ce qu'on récupère quoi. Voilà.
Et pour terminer, alors on a bien vu le. Ah oui, j'avais une question aussi là-dessus. Est-ce que tu réalises des économies, alors financières et puis même de ressources avec tes toilettes. Est-ce que tu peux nous donner un ordre de grandeur ?
Des économies de ressources, ça c'est évident, parce que du coup, moi je sais que dans ma famille, donc on est quatre, on est des grands buveurs de thé, alors du coup on va aux toilettes, mais au moins quatre fois par jour, donc ça fait 16 chasses d'eau potentielles, à 4 litres. Donc 16 fois 4, multiplié par 7 jours, multiplié par 12 mois, multiplié par... Donc c'est évident qu'en termes de ressources, quoi. En plus, on nettoie notre seau à l'eau de pluie, donc là, on n'utilise pas d'eau potable, voilà. Donc oui, en termes de ressources, là, il y a une vraie économie. Après, dans cette maison, on n'a jamais eu un autre système. Donc moi, je ne peux pas du tout évaluer et dire que je fais des économies d'eau sur ma facture. Mais non, ça, je ne peux pas le dire. Mais je fais des économies de ressources en général, quoi. Ça, c'est sûr.
Et pour conclure, est-ce que c'est un système, toi, que tu conseillerais à des gens qui voudraient s'y mettre ? Et éventuellement, 2-3 conseils pour justement bien démarrer.
Alors, moi, par exemple, je me suis déjà posé la question, si je déménageais, que j'allais dans une maison avec des toilettes à eau, qu'est-ce que j'en ferais ? Je pense que s'il y avait le moindre terrain pour composter, enfin, voilà. Alors, il faut avoir un peu de place, parce qu'évidemment, dans une courette, on n'a pas forcément envie d'avoir son compost au moment où on prend le petit-déj dans une courette de 20 mètres carrés, quoi. Mais dès l'instant où il y a un petit peu de place, je le referais, c'est évident. Après, si j'arrivais dans une maison où il y avait des toilettes à eau installées, simples et tout, peut-être que je maintiendrais les deux systèmes en parallèle. Parce que pour les petits événements de la vie un peu casse-pieds, comme quand on est malade, voilà. Et puis aussi, parce que je ne suis pas persuadée... par exemple, quand on prend un traitement, je ne sais pas exactement comment le compost le compostage, en fait, peut détruire... Donc ça, c'est encore une question que j'ai pas, enfin, voilà, à laquelle je n'ai pas tout à fait de réponse. Et donc, dans ces moments-là, je pense que ça peut être intéressant d'avoir un toilette à eau. Mais en même temps, ça n'est que repousser à la collectivité un truc qu'on n'arrive pas à régler soi-même. Mais voilà. Moi, je pense que quand les deux systèmes coexistent, c'est vraiment super, quoi. Enfin, je veux dire... Je suis sûre que les enfants, ils trouvent ça très ludique et tout ça, et qu'à partir du moment où ils ont compris cette histoire de ne pas dépenser de l'eau, de pas salir de l'eau propre, quoi, dans un moment où on risque quand même de manquer de cette ressource-là, c'est quand même pas mal, et que du coup, il faudrait éduquer les générations. Je sais que, enfin, dans les pays du Nord, en Suède, je crois, notamment, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'arriver avec des systèmes collectifs, quoi, hein, des immeubles qui sont avec des culs, en fait, où ils séparent les matières solides des matières liquides et tout. Et chez eux, c'est... Enfin, je veux dire, la question se pose plus. Les gens rentrent dans un endroit, ils voient des toilettes, ils s'adaptent au fait que ce soit une toilette à eau, une toilette à litière ou une toilette à séparation de matière. Et ça, je me dis, ce serait vraiment bien, quoi, qu'on y vienne petit à petit et que la chasse d'eau, elle soit là juste quand on en a vraiment besoin, effectivement, et pas seulement pour un petit pipi. Et puis nous, on fait aussi pipi dans le jardin. Ça nous arrive aussi très souvent. Ça, c'est quand même encore le must. Donc voilà. Moi, je dis aux gens, lancez-vous, faites coexister les deux solutions. Il faut essayer. Puis on se rend compte que c'est pas si casse-pied. Et puis c'est aussi une reprise un peu de responsabilité de nos déchets, quoi. Voilà. Voilà ce que je dis, ce que je propose, ce que j'essaye pour moi-même. Mais voilà.
Ben, je te remercie, c'était très instructif.
C'est la fin de notre série sur les toilettes sèches. Vous pouvez retrouver cette émission et les deux précédentes en podcast sur le site de la radio studiosf.fr à la page de l'émission « La chose commune ». La semaine prochaine, on parle d'un autre sujet brûlant, la pollution lumineuse. En attendant, on continue d'agir pour la chose commune.